Aujourd'hui, à Rencontre spirituelle, il sera question du père Paul-Émile Pelletier, un oblat de Marie Immaculée, qui est né en 1915 et qui est mort en 1985, après une vie active extraordinaire dans le domaine de l'action catholique, particulièrement ici à Montréal. Mais il a été aussi aumônier de la JOC pour toute l'Amérique du Nord. Il a été extrêmement actif auprès particulièrement de la jeunesse ouvrière catholique, mais aussi auprès des couples, des familles, et on lui doit énormément, énormément. C'est un homme extraordinaire. Je devais vous parler plutôt du frère François-Xavier Pelletier, un autre oblat de Marie Immaculée, un frère qui est mort en 1956, mais j'ai changé d'idée quand j'ai découvert ce père Paul-Émile Pelletier. Je crois qu'il faut vraiment le mentionner. Sa vie a été publiée aux éditions Pauline il y a une dizaine d'années. Et je vous en donne donc un résumé. C'est à Lavaltrie, près de Montréal, qu'il est né. C'est de la patrie, ça, de Victor Bourgeot, l'architecte sculpteur réputé. On lui doit des églises importantes à Montréal, dont je crois la paroisse Saint-Pierre-Apôtre des Oblats de Marie Immaculée, d'ailleurs, devant Radio-Canada, là, sur la rue de la Visitation. Paul-Émile Pelletier est donc né le 3 décembre 1915. Son père s'appelait Lionel Pelletier, évidemment, et sa mère, Rose-Alma Etu. On raconte qu'après le souper, chez eux, on lit la Bible. On lit surtout la vie du saint du jour, que chacun écoute religieusement, parce que les saints impressionnent les enfants, hein? Et les saints, en effet, impressionnent beaucoup. Paul-Émile Pelletier et ses frères et sœurs sont nombreux. Sa mère, d'ailleurs, préside la longue prière du soir, qui est suivie du chapelet, et puis les neuvaines préparatoires aux grandes fêtes, toutes sortes de choses. Elle est un peu trop énergique et pieuse à la fin du jour, si bien que certains soirs, eh bien, il y en a qui clignent la tête, hein, et ils s'endorment un peu, et Rose-Alma, la mère, doit avertir son mari, puis elle lui dit parfois, paraît-il, « Lionel, tu dors ». Elle essaie de ramener son mari à la réalité. Parce que pour lui, Monsieur Pelletier, la religion, c'est une affaire de gros bon sens. Il dit, l'Église, c'est la plus belle maison de la paroisse, là où il se dit le moins de bêtises. C'est un bon Québécois de la prairie. Et la parole de ses fils, même prêtre, parce qu'il va y en avoir plusieurs, ne vaudra jamais celle de son curé qu'il vénère. Il vénère son curé. Au moment de vendre sa terre, il va dire aux acheteurs éventuels, sur ses vieux jours, « Oh, tout est à vendre, oui, tout est à vendre, sauf ma femme. » Parce qu'il a toujours aimé sa femme. C'est un couple qui s'est aimé jusqu'au dernier moment. D'ailleurs, devenue invalide, Mme Pelletier se déplace en fauteuil roulant, et pendant 5 ans, son mari, Lionel, il en prend soin avec délicatesse, avec tendresse et avec humour. Et puis, il la garde comme un enfant. Après le décès de sa femme, Rose-Alma, eh bien, Lionel Pelletier va placer sa plus belle photo dans la cuisine, puis il va continuer de jaser avec elle. L'aventure de cette famille est une histoire d'amour. À cette époque, la notion du sacré dans le mariage demeure intacte, hein? Souvenez-vous. Et le jeune Paul-Émile, lui qui est l'aîné de cette famille, eh bien, il a 14 frères et sœurs qui vont naître après lui. Toujours de la même mère, Rose-Alma. Quand Paul-Émile a 6 ans, d'ailleurs, la famille compte déjà 8 enfants. Comment ça? À 6 ans, il y a 8 enfants, mais il faut préciser qu'à 2 reprises, monsieur et Mme Pelletier ont mis au monde des jumeaux. Il y a les 3 derniers aussi qui arrivent d'un seul coup. Le 13e, 14e et 15e enfant arrivent d'un même coup, mais malheureusement, on ne peut pas les réchapper. Et c'est ce qui faisait dire à Mme Pelletier, un jour, si mes triplets avaient vécu, j'aurais 2 prêtres de plus. 2 prêtres de plus. Elle calculait ça comme ça. Elle voyait 2 sur 3. 5 des enfants, à un moment donné, sont pensionnaires en même temps. Ça peut paraître assez extraordinaire, parce que les Pelletier sont pas riches. Mais ils acquittent sans aucune aide extérieure tous les comptes du collège. C'est en pleine crise économique, ça. C'était dur à cette époque-là. Il y a eu le crash de 1929. Et Paul-Émile est convaincu, lui, tout jeune, qu'il est appelé à la prêtrise. Il y pense depuis longtemps. Alors, il entre donc chez les Oblats de Marie-Immaculée, après un bref séjour au Grand Séminaire de Montréal, rue Sherbrooke-Ouest. Il prononce ses vœux à Ville-la-Salle en 1937, le 21 juillet. Il est donc agrégé à la congrégation des missionnaires Oblats de Marie-Immaculée. Puis, à la cathédrale d'Ottawa, le 21 septembre 1940, Mgr Alexandre Vachon l'ordonne prêtre. Dans les constitutions des Oblats, on peut lire ce qui suit qui est très beau. Écoutez bien ça, c'est très beau. Les Oblats de Marie-Immaculée se vouent au groupe que l'Église atteint le moins. Notre mission, est-il dit, est d'aller d'abord vers ceux dont la condition réclame à grands cris une espérance et un salut que seul le Christ peut apporter en plénitude. Ce sont les pauvres aux multiples visages, et nous leur donnons la préférence. Or, dans la province de l'Est du Canada, les Oblats sont engagés dans tous les secteurs. Je me souviens, quand j'étais jeune, c'était extraordinaire. Aucun ministère ne leur est étranger à cette époque, mais j'espère que c'est encore comme ça. L'enseignement dans les collèges, les juniorats, les scolasticas, les universités. Ils avaient des paroisses populeuses en milieu défavorisé, avec des foules qui venaient, des églises pleines à toutes les messes presque. Prédications en paroisse un peu partout, des retraites fermées, des aumôneries de religieuses, ils s'occupaient des religieuses, des hôpitaux, des militaires, des soldats, quoi. Puis de toutes sortes de mouvements comme l'accordaire, les syndicats, les voyageurs de commerce, puis l'Action catholique, la Jeunesse ouvrière catholique, la Ligue ouvrière catholique, qu'on appelait la JOC, la LOC. Puis, ils s'occupaient de pèlerinage, des missions indiennes ou esquimaux d'ici au pays, puis des missions à l'étranger. Ils allaient jusqu'en Amérique du Sud, en Afrique, en Asie, etc. Tous ces jeunes Québécois qui ordonnaient prêtres chez les Oblats de Marie-Immaculée, qui partaient comme ça. C'est fantastique. Le père Gilles Marchand donne donc au père Pelletier, en 1943, une obédience. Pas très éloignée, il l'envoie à la maison Notre-Dame des Ouvriers au 1001 rue Saint-Denis, en plein quartier ouvrier de Montréal. À la mi-septembre 1944, avant la fin de la guerre, là, le père Georges-Henri Lévesque, dont il était grandement question dans nos journaux en fin de semaine, très connu, 94 ans maintenant, ce Dominicain, fondateur et doyen de la Faculté des sciences sociales de l'Université Laval, a détecté chez le jeune père Paul-Émile Pelletier un sujet d'élite. Alors il écrit au père Marchand, « Appuyé par les autorités de notre faculté, je vous demande d'autoriser le père Pelletier à poursuivre ici ses études en relations industrielles. L'un de nos meilleurs étudiants, équilibré, talentueux, il possède tout pour devenir un sociologue et un apôtre social qui jouera un rôle remarquable au Québec. » Dans notre province, comme on disait à l'époque. Paul-Émile Pelletier se retrouve donc à Québec pour une seconde année. Il vit dans la paroisse de Saint-Sauveur, paroisse de 12 000 âmes. Tous les mouvements, toutes les associations prospèrent. C'est animé par une équipe de Blanc Marie-Immaculée extrêmement actif, zélé et au dévouement admirable. Et le père Paul-Émile Pelletier trouve que la table a été mise tout exprès pour lui. Il s'engage spontanément dans la section masculine de la JOC. Implanté au Québec en 1932 par le père Henri Roy, un autre Blanc de Marie-Immaculée, d'après les modèles belges et français, bien la Jeunesse ouvrière catholique gagne rapidement tout le Québec. Pour sa part, Paul-Émile Pelletier y consacre une dizaine d'années. Et tout comme ses confrères, il va mettre l'accent sur la formation des permanents, de ceux qui s'engagent à l'intérieur de la JOC. Il écrit un jour, la JOC se présente comme un signe d'espérance. Elle crie tout haut les souffrances de la jeunesse travailleuse. Elle fait appel à tous ces jeunes, victimes d'une société en déroute, pour les inviter à relever la tête et à se donner la main et à faire face courageusement à leur avenir. En 1945, l'année suivante, à 29 ans, au terme de ses études en sciences sociales à l'Université Laval, Paul-Émile Pelletier arrive à Montréal et devient adjoint au père Villeneuve, aumônier général de la JOC, de la JOCF et de la LOC, c'est-à-dire la Jeunesse ouvrière catholique, la Jeunesse ouvrière catholique féminine et la Ligue ouvrière catholique. Or, homme au talent quasi universel, puis à l'activité débordante, c'est un énergique. Le père Pelletier ne se dérobe à aucun service qu'on lui demande. Son audace, son assurance, son optimisme, son entre-gens sont des éléments précieux. Le 21 juin, par décision des évêques du Québec, le père Pelletier est nommé aumônier national de la JOC. Aumônier national. Au début de mars 1956, la centrale de la JOC est officiellement avisée par la ville de Montréal que la façade de sa bâtisse menace d'écroulement. Et elle doit être réparée dans un délai de 3 mois, sinon on va apposer les scellés. Alors, ça déclenche pas la panique, mais presque, hein, si bien que le 14 mars, tout le monde est éveillé de à bonne heure et on gravit le Mont-Royal. C'est marqué pressé. Alors, acculé à une échéance redoutable, c'est non seulement l'édifice, mais l'œuvre qui frôle la ruine. Et on prie Saint-Joseph sur le Mont-Royal. Il est attendri par la détresse de ces jeunes ouvriers, ces jeunes protégés, Saint-Joseph, lui qui a été ouvrier. Il va réagir vivement. Qu'est-ce qui va arriver? Mais ce même jour est signé à Victoria, en Colombie-Britannique, un chèque. Un chèque de 5 000 $ qui parvient au supérieur provincial des Oblats à Montréal le 19 suivant, le 19 mars, à fête de Saint-Joseph, et remis à la JOC le jour même. Avec cette brève explication, c'est Monseigneur Charbonneau qui envoie ce chèque, Joseph Charbonneau qui est en exil. Je vous en ai parlé le 19 novembre 97, c'est l'émission numéro 537 pour Joseph Charbonneau, une émission qui avait beaucoup intéressé l'auditoire. Il écrit « Voulant, avant de mourir, disposer des biens temporels qui me restent, je pense à la JOC, dont vous avez été les organisateurs et le meilleur soutien. » Avec l'enthousiasme du père Pelletier, mais la JOC est très appréciée, très aimée par beaucoup de gens. Voici d'ailleurs un témoignage d'un jeune. « Si je suis capable de m'organiser, si j'ai pu aller au bout de mes projets, si je suis dégéné, épanoui, si je suis resté engagé, je le dois à la JOC, qui a été déterminante pour moi et m'a fait découvrir ma vie intégrale. Ce témoignage fuse la plupart des permanents de la JOC, qui deviennent par la suite des militants en milieu scolaire, en milieu familial ou social. Plusieurs auraient pu s'orienter vers des postes plus payants, hein, mais ils ont voulu travailler dans des organismes d'église ou de développement. Ils ont voulu être fidèles avec leur entraînement de jossiste, comme on dit. Et ils continuent d'ailleurs d'utiliser comme méthode de synthèse ce que vous connaissez peut-être, le « voir, juger, agir ». Voir, juger, puis là, agir. Un livreur d'épicerie qui n'a eu d'autre cours que ses 8 ans à la JOC est devenu, écoutez bien ça, un livreur d'épicerie qui n'a eu d'autre cours que ses 8 ans à la JOC est devenu comme ça, grâce à la JOC, assistant-chef de nouvelles à la presse. Oui, assistant-chef de nouvelles à la presse. C'est un poste très, très important. Puis il est devenu président du syndicat des journalistes. Puis il est devenu finalement vice-président de la CTCC, la Confédération des travailleurs catholiques du Canada. L'Action catholique, qu'on a surnommée l'Université ouvrière, ne décerne aucun diplôme, évidemment. Mais cette Action catholique, elle dispense une formation solide à cette époque. Elle donne la maturité, elle aiguise le sens des responsabilités sociales et chrétiennes. Et on y acquiert le goût de l'étude et de la culture. C'est ainsi que des gens, incapables de prendre la parole en public, ont appris à animer des réunions, à paraître même à la télévision. Des travailleuses ordinaires sont devenues responsables nationales. Et même des délinquants se sont transformés en leaders. Les entraîneurs voyaient émerger des personnes auparavant timides et craintives. Et en retour, les jeunes se préoccupaient de ce qu'ils appelaient le décapage des aumôniers. Réviser avec eux ce qui, dans leur formation, spirituelle ou autre, avait pu les couper de la réalité, de la vie, n'est-ce pas? Ils avaient des formations spirituelles théologiques, là. Ces aumôniers, il fallait aussi les ramener un peu à la réalité, puis les jeunes aidaient ces prêtres. Il y a eu une grosse année en 1957 pour le père Pelletier. Il y a du boulot cette année-là, en 57. Il a charge d'aumônier national de la JOC. Il y a la Réunion nationale du service de préparation au mariage, qui a été créée ici au Québec, s'est répandue à travers le monde, et sa réorganisation du secteur. Et puis, il y a une session intensive pour les anciens, des centres d'entraînement pour filles, garçons et aumôniers, la préparation des célébrations aussi qui vont signaler le retour des pèlerins de Rome, etc. Puis il y a le jubilé d'argent de la JOC canadienne qui coïncide avec le rassemblement de quelque 34 000 JOCistes, j'ai bien dit 34 000 JOCistes, qui viennent de 90 pays, oui, 90 pays dans la ville éternelle à Rome, à la fin de l'été. La délégation du Québec va comprendre 135 jeunes, à part les dirigeants nationaux et l'aumônier. C'est si merveilleux que l'Osservatore Romano, le journal du Vatican, affirme « Jamais Rome n'avait vu un congrès aussi enthousiaste, aussi ordonné et discipliné. La plus belle manifestation jamais vue de mémoire d'homme, imaginez. » Le pape Pie XII a prononcé, je vais parler de lui vendredi prochain, le pape Pie XII. Pape Pie XII a prononcé en français un discours qui est, paraît-il, une véritable charte du jocisme. La JOC du Québec est fière d'avoir participé à un événement si exaltant à Rome. Et elle repart convaincue de la noblesse puis de la nécessité de sa tâche. Les archevêques et évêques du Canada décident de tenir en mars 60 un carrefour sur l'apostolat en milieu ouvrier, qui réunira les aumôniers d'Action catholique ouvrière et de syndicats, de même que les prêtres en paroisse ouvrière. Et pour en assurer le succès, on fait appel à qui? Bien évidemment, au père Paul-Émile Pelletier. Et en octobre 59, on lui confie donc la présidence du comité d'organisation de ce projet qui pour mars 60. Durant la première quinzaine de novembre 1961, l'ancienne capitale du Brésil accueille à Rio de Janeiro, là, le deuxième conseil mondial de la JOC. Le père Pelletier s'y rend, accompagné de trois présidents nationaux. Il se mêle aux 260 délégués de 85 pays, puis on y prend fortement conscience de la force extraordinaire de la JOC internationale, qu'on surnomme les Nations Unies Juniors, avec un esprit de charité et d'apostolat, cependant. Le père Pelletier est nommé aumônier de la JOC de l'Amérique du Nord. Une responsabilité énorme. C'est une responsable laïque québécoise, d'ailleurs qui sera élue permanente, elle, au siège de la JOC internationale à Bruxelles. Au Cap de la Madeleine, chez les Oblats, on peut dire que on voit accourir 15 000 fidèles. Et 10 000 jocistes. Pour fêter quoi? Le demi-siècle de Cardine, le fameux cardinal Cardine, belge, à la JOC. Demi-siècle à la JOC. Il a 80 ans, plus et plus. Il préside à l'engagement de 200 nouveaux jocistes. Le père Paul-Émile Pelletier a beau être relativement fort, travailler avec facilité, tout ça, et puis manœuvrer avec souplesse toute cette espèce d'univers. Ben, il n'en subit pas moins, évidemment, la contrainte des responsabilités qui sont lourdes, qui sont nombreuses. Et à un moment donné, trop c'est trop, au printemps 64, le père Pelletier, qui n'est pas vieux, il n'a pourtant 49 ans, mais subit une grave attaque cardiaque, un œdème aigu du poumon. 10 jours en équilibre instable entre la vie et la mort. Il séjourne 3 mois à l'hôpital, dont les 3 premières semaines dans un coma profond, imaginez. Et en lui prescrivant un an complet de repos, son médecin le taquine et lui dit « Veux-tu vivre, mais cesse de te casser la tête. » De Bruxelles, son vieil ami, Cardine, eh bien, s'émeut et lui communique « Je vous exprime la sympathie de la JOC mondiale. Soignez-vous bien, guérissez complètement. Nous avons besoin de vous. » C'est le fondateur de la JOC qui lui transmet ce message. Le père Pelletier s'en sortira, puis il a encore 20 ans de vie en réserve. Et en juillet 1964, à 48 ans, il offre à Mgr Audet sa démission comme aumônier national de la JOC. « Je considère comme une grande grâce, dit-il, d'avoir travaillé à l'Action catholique pendant 17 ans, 9 ans à la JOC et 8 ans à la LOC, incluant Trois-Rivières. J'ai été témoin et instrument de ces effusions de grâce, écoutez bien, ces effusions de grâce, de ces générosités incalculables dans les âmes des travailleurs. Je garde de mon long stage un tel amour de l'Église que je recommencerais si on me le demandait. Mais gravement atteint et soumis à un long repos, l'heure est venue de suggérer que l'on me remplace. La JOC est si importante qu'elle nécessite un aumônier en pleine santé. Un aumônier en pleine santé. Alors, dans une congrégation comme celle des Oblats, il y a des chapitres généraux. Chapitre général constitue l'autorité suprême. Et se réunit normalement tous les 6 ans. Donc, en 1966, le chapitre général a comme mission spéciale de préparer un texte de constitution et de règles, c'est revoir les textes fondamentaux des Oblats de Marie-Immaculée. Le père Pelletier est représentant de l'élément dynamique et progressif de la congrégation, avec le père Pierre-Paul Asselin. Ils incarnent tous les deux le renouveau dans la foulée du Concile Vatican II. Le père Pelletier déplore qu'on y ait inséré tel quel l'article numéro 11, qui semble avoir été rédigé par lui en 1966, qui reflétait bien ce qu'il vit. Je cite ce qu'il avait écrit. « Sachant que l'Esprit de Dieu, c'est rare qu'on parle de l'Esprit de Dieu, sachant que l'Esprit de Dieu est déjà agissant au cœur des personnes, des communautés et des événements, l'Oblat sera attentif à cette présence de l'Esprit-Saint, l'Esprit de Dieu, pour le révéler et disposer les volontés à l'accueillir. » Ce chapitre des Oblats imprime un tournant dans l'histoire de la congrégation, et en tout cas dans la province Saint-Joseph, qui n'est plus la même après. À tout calculer, il a consacré, au-delà de 6 mois, ce courageux schéma d'aggiornamento Oblat. Comme prédicateur au Cube de la Madeleine, la contribution du père Pelletier est majeure. C'est lors de la Grande Neuvaine de 1968, alors qu'il prêche 4 soirs, il dit ceci, c'est une petite phrase, mais écoutez bien. « Citoyens à part entière de la cité spirituelle, donc citoyens à part entière de l'Église, si vous voulez, les laïcs doivent être des agents d'unité et d'engagement à l'intérieur de l'Église. » Les laïcs doivent être des agents d'unité et d'engagement à l'intérieur de l'Église. Le 10 août 1980, beaucoup plus tard, autour du thème « Créer à l'image de Dieu », qui est un des très beaux thèmes que nous avons dans notre foi, nous sommes créés à l'image de Dieu, il parle du couple affirmant aujourd'hui « Croire, c'est aimer ». Et au sein du conseil provincial, le père Pelletier anime la pastorale des Oblats, engagée en 18 paroisses francophones, au Québec, en Ontario. Et puis, il remue passablement de choses. Il instaure les visites systématiques des paroisses. On n'a plus ça maintenant. Ces missions permanentes. Il paraît que ça existe dans la paroisse Saint-Denis, à Montréal. Ouvert à l'engagement des laïcs, il incite à former partout des conseils de pastoral, puis il rédige les actes de visite assortis d'enquêtes sociologiques. C'est la réminiscence du voir, juger, agir dont je vous ai parlé tout à l'heure, de la JOC. Et puis, le père Pelletier quitte la maison provinciale et passe l'année 1970-71 au presbytère Sainte-Bernadette à Montréal. On le nomme responsable ensuite du bureau montréalais de Novalis, qui publie le prix en Église, rue Saint-Hubert, dans ce temps-là, de son service de l'homélitique aussi, puis de ses publications familiales. Puis, il est envoyé à Saint-Pierre-Apôtre devant Radio-Canada, là, où il se lance à plein dans les entrevues. Le père Paul-Émile Pelletier demeure rattaché à cette résidence jusqu'à son départ définitif pour Richelieu en septembre 1985, quand il se prépare à la mort. Alors, je recule dans le temps, je vais au mois d'août 1972. Monseigneur Gérard-Marie Coderre de Saint-Jean-Longueuil écrit au père Pelletier, qui a alors 56 ans, « Sur présentation de votre supérieur religieux, je vous nomme par les présentes, adjoint à l'office diocésain de la famille de Saint-Jean, du diocèse de Saint-Jean. Puisse le Seigneur vous assister de ses grâces et de ses lumières. » Alors, tout doucement et sensiblement, le père Pelletier vient d'entrer dans sa troisième et dernière carrière, la famille. Toute sa vie l'y a préparé, notamment son stage à l'Action catholique. Parce que la famille, mais le père Pelletier, il en vit, lui. Il en mange. Puis il va en mourir. Mais pourtant, c'est un célibataire consacré. Un prêtre. Mais il sait ce que c'est qu'une famille. Il a grandi dans une merveilleuse famille. Il a vu ses frères se marier, aussi ses sœurs. Et selon le dicton, les causes qui meurent sont celles pour lesquelles on ne meurt pas. Mais qu'importe, il y sera extrêmement heureux. Il connaîtra un succès phénoménal. Il deviendra légendaire. Et pour sa part, il va sauver la famille. Conférencier, il déclare, « Si je suis ce que je suis, heureux dans ma peau, c'est parce qu'un couple a dit oui, mon père et ma mère. Le monde recommence là où un couple décide d'accueillir la vie. » Je répète, c'est trop beau cette phrase. Hein? Le monde recommence là où un couple décide d'accueillir la vie. Mon père et ma mère ont été amoureux durant les 58 ans qu'ils ont vécu ensemble. C'est avec papa et maman que j'ai appris à aimer, à prier, à lutter. C'est à l'intérieur de ma propre famille que j'ai découvert la joie, l'amour. Le meilleur en moi vient de ma famille. Mais à la famille, on a donné les plus beaux noms. Tissu, trame, cellule fondamentale et indispensable de la société. Lieu d'appartenance, d'expérience, de relation, de croissance, de fidélité. On a dit aussi de la famille que c'est l'endroit où l'amour prend racine dans un coin de terre. On a dit de la famille que c'est une église domestique, la première éducatrice de la foi, etc. Et le père Pelletier disait, lui, la famille, comme il aurait dit, la patrie, la patrie. Il a en la famille une croyance que ne partagent pas tous les prêtres, malheureusement. Et habité par le projet de sauver la famille, il devient un chef de file dans une pastorale où il n'y a pas d'encombrement et où pourtant les besoins sont toujours grands. Il s'efforce d'intéresser les prêtres à la relation d'aide au couple. Il se mêle à tout, à la SOF, au service de préparation au mariage, aux familles monoparentales, aux rencontres, aux rendez-vous, aux couples aidants. Et j'en passe, une sorte d'activité qu'il y avait, il y en a encore. De la vie de ses collègues, à 57 ans, il est plein d'ardeur dans le feu de sa jeunesse. C'est l'ère du counseling psychologique, où le père Pelletier est expert. On s'affaire à regrouper les mouvements de couple, afin de travailler, bien, en complémentarité, puis non en concurrence, évidemment. Et c'est à Longueuil que le père Paul-Émile Pelletier inaugure les soirées d'amour. Ça fait fureur, ça, en 1973. Il va en tenir dans une dizaine de paroisses. Une secrétaire qui a travaillé 5 ans près du père Pelletier lui rend ce témoignage suivant. Écoutez bien ça, je l'ai parfois vu accablé ou fatigué, mais jamais de mauvaise humeur. Il n'était pas bousculant. Quand il apportait un texte à taper, ce n'était jamais urgent. Demain, disait-il. Bien écrit. Oh, il faut voir son écriture. Hein, une écriture superbe. Oh, il écrivait très belle écriture à la main, là. Bien écrit, aéré, dit cette femme. Ses manuscrits étaient impeccables. Disposition déjà faite, sans faute. Espiègle, il taquinait, clignait de l'œil et dédramatisait. Quel bon prêtre, quel bon religieux. Alors, il est approché par Monseigneur Jean-Marie Lafontaine, ce merveilleux évêque auxiliaire de Montréal qui est mort trop tôt. Mû par son sens missionnaire et séduit par un nouveau défi, ben, il se laisse attendrir par Monseigneur Lafontaine. Il part donc pour Montréal et la transition se fera en douce. En septembre 1976, il est nommé par l'archevêque Monseigneur Paul Grégoire, aumônier du service d'orientation des foyers, le SOF, service d'orientation des foyers du diocèse de Montréal. Le père Pelletier écrit à son supérieur provincial, le père Casabon, « Je suis fier de cette nomination. Tout est permis comme projet. Oh, un peu essoufflé de ce temps-ci. J'essaie de m'ajuster à mes deux mi-temps. On a bien tendance à me demander du plein temps. » Alors, en octobre 77, le père Pelletier écrit au père Casabon encore, « Je suis rendu au 1207 rue Saint-André, au bureau du SOF et du service d'animation à la préparation au mariage, le SAPM. J'ai deux aides, une religieuse du bon pasteur qui arrive de l'Université Saint-Paul d'Ottawa, avec une maîtrise en counseling matrimonial, et une religieuse de l'Immaculée Conception qui sort de l'Institut des Dominicains avec une maîtrise en pastorale spécialisée. Elle joue un rôle indispensable. Comment pourrais-je fonctionner sans elle, hein? Ma tâche est plus missionnaire que bien d'autres. C'est un grand défi que j'ai relevé comme directeur fondateur d'un office de la famille pour cet immense diocèse. Ça existe toujours, c'est au grand séminaire, l'office de la famille. Puis il ajoute, mon travail est d'abord de former un laïcat chrétien au leadership. Ma confiance est dans le Seigneur. Trois années durant, le père Pelletier collabore étroitement à la conversion du service de pastoral familial dont il est directeur en office de la famille. Le document officiel, signé par Mgr Grégoire, décrit ainsi l'office de la famille, qui est un lieu de formation et de réflexion évangélique, dit-il, soutien pour les familles, où s'élaborent les positions de la communauté catholique sur les problèmes majeurs de la société familiale. Là, en juillet 1980, le père Pelletier décide de la nomination d'un couple marié à la direction du nouvel office. C'est un couple marié qui dirige ça maintenant. Et ce couple sera effectivement désigné en septembre 1980 par Mgr l'archevêque, Mgr Grégoire. Le père Pelletier, d'autre part, définit ainsi le service d'orientation des foyers, le SOF, prise en charge du couple par lui-même, le SOF, est une école d'éveil à la croissance et à l'engagement. Et d'après une enquête de la LOC, là, la Ligue ouvrière catholique, on constate que chez plusieurs couples, on trouve de plus en plus l'incompréhension mutuelle, l'amour qui est à la baisse, le sens chrétien qui est émoussé. C'est la décadence qui commence dans notre société. Et alors, entre eux, les participants au SOF échangent sur le thème choisi pour chaque soirée comme réinventer l'amour, s'engager à plusieurs, apprendre à fêter, etc. Faire des fêtes dans les familles. Les Juifs ont des liturgies familiales, nous n'avons rien. Le père Pelletier a aidé le mouvement à démarrer dans d'autres diocèses. Et au dire d'un responsable, le père Paul-Émile Pelletier prenait les femmes dans le fond de leur cuisine puis les amenait au SOF pour leur donner la chance de s'épanouir. Les 12 et 13 octobre 1985, à l'occasion du 40e anniversaire du SOF, eh bien, il y a 200 animateurs du SOF, des anciens et actuels, qui sont accourus de Montréal, convoqués de tous les horizons du Canada français, hein, pour renouer de vieilles amitiés. On veut échanger de bons souvenirs, se retremper dans le charisme, surtout, de ce mouvement indestructible. Une grande absence se fait sentir, c'est celle du cher père Paul-Émile Pelletier. Il n'a pu répondre à l'invitation et se prépare à rencontrer Dieu, son Seigneur. Encore bien de cette terre, cependant, et présent à ses très chers amis, bien le père Pelletier enregistre, c'est assez sympathique, à leur intention, un message que tous vont écouter au bord des larmes. C'est exprimé d'une voix trébuchante. Oui, cette communication est pourtant claire. Le père Pelletier salue les collaborateurs de la première heure. Ceux d'hier et d'aujourd'hui, il en désigne plusieurs par leur nom. Ça devient un peu pathétique et il dit, « Je suis un vieux de la vieille. J'ai été pétri par le SOF, ayant eu le privilège de participer au premier groupe en 1945. Avec quelle joie j'ai été aumônier national pendant 4 ans et aumônier diocésain à Montréal durant 8 ans. La Providence est venue m'arrêter. Vous avez grandi dans la tendresse. Je suis émerveillé du beau travail que vous faites. Moi, je suis en longue convalescence, avec le privilège de prier pour vous tous, et peut-être de devenir capable un jour de vous aider. Je salue ceux qui continuent d'animer ce merveilleux instrument qu'est le SOF. Bonjour à tous. Merci de votre amitié. Le père Pelletier est un défricheur, puis un phare, si on peut dire, dans le SOF au Québec. Parce que de 1965 à 1985, dans le Grand Montréal, le SOF a formé, imaginez, 550 groupes de base. Oui, 550 groupes de base, réunissant 4200 couples. Le père Pelletier s'est mêlé à presque tous ces groupes, de quelque manière. Puis c'est de Vancouver à Moncton que le SOF se passe le flambeau. Au Québec, seulement 75 000 couples ont profité des rencontres. Le portrait de la famille n'est guère reluisant, évidemment, aujourd'hui. Hein? Le drame, c'est que le phénomène est universel. Aux États-Unis, un mariage sur deux aboutit à l'échec. Pour le Québec, prenons des statistiques même anciennes. Déjà en 1982, c'est cité par le père Pelletier lui-même. Il écrit « En 10 ans, les mariages ont chuté de 54 000 à 44 000. Le pourcentage des divorces est de 40%. Et ils surviennent en moyenne après 10 ans de vie commune. Il ajoute les remariés redivorcent à 75%. Pour faire un troisième mariage, quoi. Un mariage sur 5 serait invalide chez les catholiques parce que l'un des conjoints est inapte à s'engager à long terme. Dans les 10 dernières années, ajoute-t-il, on a dénombré près d'un demi-million d'enfants canadiens issus de mariages brisés par le divorce. Alors la poutre maîtresse, on le voit bien, de la société, la famille est en train de céder. On est passé du mariage institution au mariage alliance ou simplement au concubinage, quoi. On ne dit plus ça, le concubinage. On appelle ça, je sais pas quoi, le compagnonnage. Je sais plus comment on appelle ça. Autrefois indissoluble, le mariage peut devenir aujourd'hui, bon, un simple contrat, même pas de contrat. Cassable à volonté, quoi. Et les femmes sont rejetées comme ça avec une grande facilité. De toute évidence, la vie du couple n'est pas facile. Et parfois, c'est l'homme qui est rejeté par la femme, comme ça. Le père Paul-Émile Pelletier est convaincu que le projet de Dieu, c'est un couple, et que bien outillé, un mariage peut réussir. Il conclut que les couples et les familles ont plus que par le passé besoin d'éclairage et de formation, puis de soutien. Prêtre et membre de l'Église, il est posté, comme on pourrait dire, en sentinelle devant la forteresse familiale qui est assiégée. Assiégée, je dirais, par Satan lui-même. On dirait que c'est le démon qui détruit tout ça. Le père Pelletier se porte à la défense de la famille pour tenter de la sauver, rebâtir les couples pour préserver la famille, préserver les enfants, quoi. Et parlant de l'Office de la famille de Montréal, il disait dans son langage plutôt direct, « J'ai ouvert une shop pour débosser et raccommoder les mariages. » Sa clinique est bien équipée pour établir un diagnostic judicieux. Mais les gens ne peuvent évidemment demeurer en observation, alors il accompagne pour un bout de chemin, puis il oriente pour d'autres pistes qui pourraient aider. Là. Puis, habité par la confiance, puis assuré d'une abondante récolte, là, il se tourne résolument vers les couples. Et quelques-uns d'entre eux ont dit, « Écoutez bien ça, nous, Paul-Émile Pelletier a été le premier prêtre à valoriser le couple et la famille. Et grâce à son intervention, un grand nombre de couples sont restés unis, disent-ils. » C'est un très beau témoignage à l'égard de ce prêtre. Aimer, c'est avoir souci de vraiment l'autre. Et le père Paul-Émile Pelletier est ce qu'on appelle un homme mangé, toujours disponible pour accueillir et écouter. Il accorde la priorité aux personnes en difficulté. Pour elles, il cancelle ou il annule des visites et la Providence semble le faire surgir au bon moment. C'est drôle, ses amis disposent tranquillement de lui comme de leur bien. Oui, les gens se jettent sur lui comme la misère sur le pauvre monde, pauvre prêtre. Hein. Demandé pour une entrevue, une conférence, etc., il disait toujours « OK, je note ça », puis il griffonne alors dans les petits coins d'un agenda déjà bourré. Puis, on ne sait pas comment il se démêlait avec tout ça. Il est accroché parfois en chemin par quelque chose d'important. Il en oublie d'autres rendez-vous. Mais respectueux des personnes et attentif à leur attente, il se fait accueillant, sympathique. Il dit « Le monde a plus besoin de grandes oreilles que de grandes gueules. » Alors, poli envers ceux qui diverge d'opinion avec lui, est trop noble pour défoncer. Il cède plutôt que de revendiquer. Alors pour lui, il ne se trouve aucune situation désespérée. Il n'y a aucun problème qui ne semble mieux dans le bonheur et l'efficacité. Passé maître dans l'art de n'être pas indispensable, il formait d'autres en vue de la relève. Ah, quel homme phénoménal, extraordinaire, extraordinaire. Alors, on semble le prendre au dépourvu des fois, mais une solution se fait toujours accessible. Et il dit des fois, il n'y a quand même que à l'hôpital, que le mopologiste qui fut assez complaisant pour me demander comment ça va ce matin. Le mopologiste, c'est celui qui passe la mope d'après lui. Et le père Paul-Émile Pelletier a déjà dit qu'il avait tout appris de ses parents, à commencer par travailler. Et alors qu'il besognait à Longueuil à Montréal, ses rapports annuels montrent qu'il pouvait mener cumulativement plusieurs chantiers et être efficace partout. Il avait appris dans sa jeunesse, dans sa famille. On peut dire que les foules stimulaient le père Pelletier, hein, comme le cardinal Cardine, là, fondateur de la JOC, il sait parler aux jeunes, au monde. C'est un communicateur vulgarisateur exceptionnel. Sa parole, puis la sincérité de ce qui vient de son cœur, bouleverse les gens. Il peut faire rire ou pleurer, mais à coup sûr réfléchir. C'était un prédicateur extrêmement apprécié. Ce qu'il dit a tant de saveur qu'on l'a déjà présenté comme notre Yvon Deschamps en soutane. Les gens sont toujours avides d'entendre ce conférencier qui a du coffre. Le verbe facile et abondant les rejoint au plus profond de leur cœur. C'est un homme vraiment exceptionnel. Selon le père Paul-Émile Pelletier, noble de Marie Immaculée, je vous le rappelle, le prêtre est quelqu'un que Dieu a choisi pour rendre les autres heureux. Plus que l'homme de pouvoir, le prêtre, c'est le dispensateur de l'amour, dit-il. Et son sacerdoce marque tout ce qu'il fait. Il est d'une intégrité inattaquable, sans déviation ni légèreté. Dans son existence de prêtre, la messe est essentielle. Quotidiennement fidèle, il s'en nourrit. Puis il la fait vivre aux autres. Par exemple, avant une célébration communautaire, il invite les couples à se pardonner mutuellement. Même lors d'une messe privée, sa simple proclamation de l'Évangile est exaltante. Lors des journées d'amour dont je vous ai parlé tout à l'heure, on clôture les 10 rencontres d'un groupe SOF et Paul-Émile fait une célébration toute spéciale qui impressionne profondément. Un oblat, partenaire du père Pelletier dans la pastorale familiale, fait ce rapprochement entre le Christ et lui. C'est très beau, ça. Le Christ nous a donné un message d'amour. Bien, Paul-Émile Pelletier, lui, l'a détaillé. Le Christ a donné sa vie par amour. Eh bien, Paul-Émile a passé sa vie à donner l'amour. Jésus a fait son premier miracle en faveur d'un couple, à Cana. Paul-Émile a fait des miracles pour ressouder des couples. Jésus a choisi et formé 12 apôtres. Eh bien, Paul-Émile s'est entouré de milliers de couples. Apôtres. Jésus a été la source de la religion d'amour. Eh bien, Paul-Émile l'a enseigné, cette religion, à la source du monde, et c'est la famille. Jésus a vécu sa scène, son dernier repas, le jeudi au soir. Eh bien, avec émotion, Paul-Émile a fait vivre la messe aux familles. Dans un temps de sécurité économique et familiale, le prêtre dévoile le visage de l'amour. Et on s'étonne de sa connaissance des problèmes du mariage, lui un célibataire. On lui disait comment ça se fait. Puis il répondait, c'est que j'écoute aux portes. À l'un de ses correspondants, le père Pelletier écrit, le but de ma vie, c'est qu'à travers moi, les gens reconnaissent le Christ. D'une spiritualité épanouie, moderne et rayonnante, il passe en faisant le bien. Une amie le décrit comme suit. C'est la personne qui, dans toute ma vie, m'a le plus donné l'image de Dieu. Pour moi, il était un sacrement. Je répète cette phrase qui va faire plaisir à beaucoup de prêtres, car elle s'applique à beaucoup plus de prêtres que l'on pense. Chers prêtres qui m'écoutez, écoutez cette parole, je vous l'adresse, je vous la dis du fond de mon cœur. C'est la personne qui, dans toute ma vie, m'a le plus donné l'image de Dieu. Pour moi, ce prêtre était un sacrement. Il avait le don de prier en travaillant. Un prêtre, il est parvenu au mysticisme de l'action. Il a Dieu à fleur de cœur. Devant un événement fortuit, il s'arrête et il dit « on va prier ça ». En 1968, le père Pelletier écrit « Les laïcs ont une responsabilité majeure dans la construction du monde aujourd'hui. Leur christianisme leur fait un devoir d'être aux avant-postes du développement économique, social, culturel, selon leurs fonctions et leurs charismes. Depuis quelques décades, l'Église de chez nous a dû s'adapter à la montée du laïcat, qui réclame sa place au soleil, et Vatican II a réhabilité une à une ses institutions sur la question. Du fait de la diminution notable des prêtres, bien, nous, les laïcs, nous devons percevoir là, peut-être, une invitation pressante à nous engager activement dans l'Église. Et le père Pelletier a dû tressaillir le soir du 11 septembre 84, lorsque le pape Jean-Paul II, dans l'atmosphère survoltée du stade olympique de Montréal, s'est adressé à la multitude de jeunes qui ne cessent de l'applaudir. Et parlant de l'Église, Jean-Paul II leur dit « Vous êtes appelés à assumer la mission d'annoncer la vérité et de répandre l'amour. Prenez votre part à la vie de ce corps, tout imparfait qu'il reste. Apportez votre exigence et votre enthousiasme dans un désir d'engagement. » Puis là, laissant ses feuilles, le pape improvise, il dit « Voilà l'Église, une sainte catholique apostolique. Votre Église, l'Église, c'est vous. » Et s'il n'y a jamais eu un prêtre qui a cru à l'imminente vocation des laïcs, c'est bien le père Paul-Émile Pelletier. « Malheur à moi, dit-il, si je n'évangélise point, si je n'évangélise point, comme le cri de saint Paul. » Sa puissance d'énergie et de raisonnement est inépuisable. Il était d'une séduction irrésistible, d'un enthousiasme prodigieux. Plusieurs s'attachent à lui au point d'associer leur destin au sien, comme à saint Paul. Finalement, le décès du père Paul-Émile Pelletier en surprend plusieurs, au matin du 6 novembre, dans un mois. Ce sera l'anniversaire. À la maison funéraire à Montréal, c'est bientôt l'engorgement dans les trois salons adjacents. Le matin des funérailles, le corps est transporté à l'église Saint-Pierre-Apôtre, où reprend l'interminable défilé. D'un hommage éloquent de tout un peuple qui est venu prier et exprimer sa reconnaissance à celui qu'il appelait et qui était véritablement son père. Le 9 novembre, donc, la célébration eucharistique rassemble une foule à laquelle l'historique église Saint-Pierre-Apôtre s'était plutôt désaccoutumée. Le chœur et la nef ne suffisent pas, le jubé est envahi. Beaucoup vont demeurer debout. Et Mgr Albert Champchagrin, oblat de Marie-Immaculée, qui préside la liturgie, est assisté de Mgr Jean-Claude Turcotte, évêque auxiliaire de Montréal. Ils sont entourés d'au-delà de 100 concélébrants, prêtres diocésains, collaborateurs, oblats de Marie-Immaculée ou amis. Et lors de l'inhumation au cimetière de Richelieu, des Pères Oblats, le père Elzéard Béliveau, supérieur religieux de Paul-Émile Pelletier, disait à son sujet « Devons-nous prier pour lui ou le prier ? Nous ne le canoniserons pas, mais nous le déclarons bien heureux. Sa vie fut une réussite, il nous a légué un héritage précieux. Une génération produit peu de prêtres du calibre de la foule de Paul-Émile, genre comme ça, étaient de ceux auxquels les hommes croient, dans les yeux desquels des milliers d'yeux se cherchent. Même en se hâtant, on peut dire que le père Paul-Émile Pelletier n'a pas eu le temps de nous révéler toute la mansuétude de Dieu qui l'habitait. Que de choses encore il avait à nous dire. Mais on peut dire, en tous les cas, qu'il a été une trace de Dieu dans cette étrange poussière de notre temps. Dieu a laissé sa trace grâce au père Paul-Émile Pelletier, oblat de Marie-Immaculée. Dans ta tendresse, Dieu a choisi et nous a appelés à vivre pour lui, en nous unissant au Seigneur Jésus pour former son corps, l'Église sainte, dont Marie Immaculée est la mère.